Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. C'est la dernière conférence de l'année. Et vous voyez, ça va être de la physique, physico-chimie un petit peu ludique, avec, je crois, un zeste d'astronomie. Mais je vais découvrir avec vous. Et ce soir, nous avons le plaisir d'avoir deux orateurs pour le prix d'un, Hervé Doll et Raphaël Aumont. Donc Hervé Doll est astrophysicien, il est professeur à Paris-Sud ou Paris-Saclay, pour l'instant on ne sait pas encore très bien, parce que Paris-Sud est en train de devenir Paris-Saclay, enfin bon. Donc il m'a dit de dire les deux, je dis les deux, voilà. Et il est spécialiste en cosmologie, donc voilà, comme moi aussi, on se connaît depuis longtemps. Et Raphaël Aumont, lui, est enseignant-chercheur aussi à Paris-Sud en physico-chimie. Il est porteur d'une chaire qui s'appelle « Cuisine du futur ». Et il est directeur du CFIC. Alors, pour ceux qui, comme moi, ne savent pas ce que c'est le Centre français d'innovation culinaire. Et donc, il travaille en collaboration avec le chef étoilé, ça tombe bien, qui s'appelle Thierry Marx. Donc, voilà, ils vont nous présenter pendant une heure des expériences de gastronomie et d'astronomie.
Merci, Florence.
Merci beaucoup.
Bonsoir. Alors effectivement, on va vous présenter la physique du monde qui nous entoure à petite échelle, enfin à l'échelle gastronomique. On ne va pas non plus descendre à l'échelle subatomique, ça sera un petit peu difficile à voir, jusqu'aux échelles cosmologiques, donc aux très grandes échelles dans l'univers, avec un fil rouge qui est que les phénomènes que l'on observe ou que l'on goûte sont en grande partie les mêmes que ceux qui prévalent à très grande échelle, à l'échelle des galaxies, de la matière noire, etc. Donc on va aborder ces sujets-là. Et on va aussi, ce faisant, vous évoquer tout ce qui est... qu'est-ce que la science contemporaine? On s'amuse beaucoup en science contemporaine, mais on fait aussi des choses très profondes. Et c'est une illustration, même si on n'a pas encore publié ensemble. Cette conférence est aussi un témoignage du fait que les croisements de disciplines différentes peuvent être fertiles en termes d'idées, et en tout cas en termes d'amusement et de médiation scientifique, c'est-à-dire de comment communiquer avec le public l'attrait de la science. Alors, ceux qui ont un smartphone, vous pouvez vous connecter sur wooklab.com/gastron, comme gastronomie, puisqu'on vous posera une ou deux questions et vous pourrez voter en direct. Ceux qui n'ont pas mis les pieds à l'université depuis longtemps seront peut-être surpris d'apprendre que le numérique et les méthodes pédagogiques innovantes sont entrées à l'université depuis quelques années déjà. Voilà. Et donc, on vous en fera un exemple en temps réel tout à l'heure. Alors, l'idée, c'est on a plusieurs séquences qui vont parler de phénomènes différents. Et puis on va l'illustrer à chaque fois à l'échelle gastronomique, enfin à l'échelle...
C'est plus facile,
parce que vous allez voir que moi, en fait, je ne vais pas faire beaucoup d'expérience. Alors moi, je suis l'astronome de la bande. Je vais avoir du mal à recréer devant vous une planète ou une galaxie ou même un univers complet. Donc ça sera surtout Raphaël qui fera des expériences. Tu veux dire un mot ?
Oui, bonjour. Oui, non, effectivement, on a abordé cette conférence avec des chapitres, en fait, et les points communs, ça va être la physique qui est sous-jacente. Donc, par exemple, parler de gravitation, parler de centrifugeuse, parler de physique, de température, de pression. Quand vous faites de la cuisine chez vous, vous jouez sur la pression, la température. Bah, quelles que soient les échelles, finalement, la physique se retrouve là-dedans, et quels que soient les domaines. Donc, c'est un petit peu ça qu'on va faire de façon unique. Et franchement, sentez-vous à l'aise de nous poser aussi des questions, de lever la main à un moment utile. N'attendez pas forcément la fin pour intervenir. C'est quand même plus sympa, un aspect assez convivial aussi. Voilà, voilà.
Et on répétera les questions pour la vidéo.
Exactement.
Alors, on va commencer par le début de l'univers, même si l'image est complètement trompeuse. Le Big Bang, le modèle du Big Bang. On parle de soupe primitive, vous voyez comme le vocabulaire nous joue des tours, on parle vraiment de soupe primitive en cosmologie, je regarde Florence qui est aussi cosmologiste, voilà, elle confirme, ce n'est pas qu'une lubie de ma part. Et donc le terme soupe évidemment évoque aussi des choses qui se goûtent et qui sont bonnes, surtout en hiver. On parle un peu moins d'émulsion cosmologique, mais Raphaël va élaborer dans un instant autour de ça. Les astrophysiciens aujourd'hui sont assez convaincus, même très convaincus, de la manière dont se sont passés les premiers instants de l'univers. Alors, on n'y était pas, on ne les a pas vus directement. En revanche, on a des preuves tangibles de la manière dont ça s'est passé. Et surtout, au-delà des preuves et des observations, on a une théorie qui est à côté, qui s'appelle la théorie du Big Bang, on peut l'appeler comme ça, en fait. C'est le modèle cosmologique de la cosmologie standard, lambda-CDM. lambda pour la constante cosmologie, CDM pour cold dark matter, donc matière noire froide. Et ce modèle se calque très bien sur les données que nous avons. Et jusqu'à très récemment, y compris les données du satellite Planck, dont je vais parler un petit peu, aucune donnée présente ne met en défaut fortement ce modèle. Donc nous, les scientifiques, on est des gens très simples. Hein. Il y a un modèle qui marche, des données qui marchent, on achète. Voilà. Alors si vous avez une théorie qui est bien meilleure que le Big Bang, on en parle après coup, mais il y a des décennies d'observations qui font qu'à ce jour, le modèle du Big Bang est le moins mauvais. Et donc ça fonctionne assez bien. Alors en deux mots, vous avez un vide cosmique, il y a longtemps, dans une galaxie lointaine, en fait il n'y avait pas de galaxie encore, vous avez un vide cosmique qui est rempli d'énergie, et de cette énergie naît entre guillemets le Big Bang, hein, avec le modèle de l'inflation cosmique. Vous avez une expansion accélérée très très courte, hein, moins de 10, moins 35 secondes, et puis après vous avez, pendant les trois premières minutes, je simplifie à outrance, hein, on pourrait y parler des heures, peut-être que vous avez suivi des conférences ici même sur ce sujet de manière beaucoup plus détaillée. Pendant les trois premières minutes, vous avez la nucléosynthèse primordiale. Nucléosynthèse, c'est-à-dire qu'il y a la synthèse des noyaux atomiques primordiales au tout début de l'univers. Et c'est pendant ces trois premières minutes que, alors j'ai pas de l'eau, mais est-ce que tu as de l'eau quelque part?
Oui, j'en ai
renversé. Voilà. Bon, on va dire que ça c'est de l'eau.
Si, ça s'en est.
Voilà, donc,
tu la bois pas, mais...
Non, je la bois pas, ok. Pendant les trois premières minutes sont synthétisés tous les atomes d'hydrogène de l'univers, un peu d'hélium, un peu de lithium. Et l'hydrogène, vous la retrouvez dans l'eau que nous buvons. Alors, Raphaël m'a dit de ne pas boire cette eau parce qu'il y avait des petites choses. Alors, on a mis une caméra aussi à un moment pour ouais. Zoomer, mais on le fera tout à l'heure quand je ne m'en y prépare. Donc, tout l'eau que vous buvez ou l'eau dont vous êtes fait, 75% à peu près, H2O, hein, deux atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène, tout l'hydrogène provient de ces trois premières minutes de l'univers. Ça, on en est absolument certain, à peu de choses près. Et donc, ce scénario du Big Bang nous raconte ça. Ensuite, un peu plus tard, on y reviendra dans la conférence et les expériences, l'univers se refroidit, parce que dans le cadre de son expansion, il se refroidit, et se formeront d'autres grandes structures, comme les galaxies, etc. Mais donc, cette histoire du Big Bang, où l'univers est chaud et provient d'une soupe primordiale, ça nous rappelle, alors c'est le parti pris qu'on a pris ce soir, hein, vous allez voir, nous rappelle une émulsion, et une émulsion nous rappelle des choses peut-être plus tangibles.
Oui, parce que tu parles de fondamentaux et puis de modèles. Et on a besoin aussi de modéliser la cuisine. On peut se dire, on a parlé de chair, cuisine du futur, qu'est-ce qu'on y fait dans cette chair? Eh bien, on réfléchit aussi à la cuisine de demain, mais surtout, on essaie de comprendre déjà la cuisine d'aujourd'hui. C'est-à-dire, cuire un œuf, ça peut paraître tout simple, mais si on se pose vraiment la question de qu'est-ce que cuire un œuf, pourquoi ça cuit, à quelle température, etc. Et pareil, donc on peut classifier comme ça la cuisine, suivant les cuissons. Et puis après, il y a les familles des sauces. Et dans les sauces, il y a, comme le dit Hervé, il y a notamment les émulsions. Mais on doit connaître trois trucs, en fait, qu'on apprend à cuisiner. Il y a tout ce qui est émulsion, donc mayonnaise, vinaigrette, etc. Il y a les mousses, donc tout ce qui est blanc en neige, mais c'est très, très vaste, une mousse. Hein. Et puis, il y a les gels. Alors, les gels, c'est la viande, justement, qui cuit. C'est la confiture qui est en train de prendre. Tout ça, c'est des gels. Alors, il y a des gels physiques, il y a des gels chimiques, c'est-à-dire c'est des façons dont les molécules s'accrochent. Et on peut simplifier tout ça. Et donc là, quand on regarde ça, c'est une mayonnaise, en fait. C'est une mayonnaise ratée. Alors, pourquoi elle est ratée? Elle est ratée parce qu'il y a des grosses bulles d'huile, il y a des petites bulles d'huile, et ce n'est pas stable. Et en plus, c'est une image qui est fausse, mais c'est pour ça qu'on parle tous les deux de modèles, d'images, on simplifie, on est obligé de simplifier. C'est plus facile de... Moi, j'ai fait une thèse sur les piézoélectriques, etc. Enfin bref, un sujet qui n'avait rien à voir, a priori, avec la cuisine, mais c'était 3-4 éléments physiques, c'était facile. Là, vous regardez un œuf, vous regardez une orange, vous regardez une tomate, il y a 400 molécules. Puis en plus, il y a de la biochimie parce qu'il y a des organismes micro-vivants dedans, etc. Donc, c'est très compliqué. Donc, il faut simplifier. Et donc, ça c'est une image qui est fausse parce que c'est une image immobile, surtout. Alors que la mayonnaise, si vous regardez une mayonnaise, même ratée au microscope, c'est plus rigolo de la regarder quand elle est ratée parce qu'elle bouge d'autant plus. Et donc, les grosses bulles mangent les petites, elles deviennent encore plus grosses, elles peuvent remanger les voisines, elles remontent à la surface et ça rate. Alors, est-ce qu'il y en a qui ratent la mayonnaise dans cet amphi?
Osez lever la main si vous ratez la mayonnaise.
Est-ce que vous ratez parfois, des fois, oui, non? Non, vous ne la faites pas, comme ça on est tranquille, ça peut être ça aussi. Mais donc voilà, c'est comprendre les mécanismes qui font que des fois ça réussit, des fois ça rate, etc. etc. Et donc c'est toujours intéressant de revenir sur ce qu'est une mayonnaise, ce qu'est un produit, ce qu'est une tomate. Donc il y a de la physique chimie dans la cuisine. Et c'est les mêmes lois, et on en reparlera tout à l'heure. D'ailleurs, c'est des histoires de compétition de surface et de volume. Ça nous anime, c'est vraiment un point commun qu'on a tous les deux là-dessus. Et on peut vraiment raconter l'histoire des planètes et l'histoire de la mayonnaise qui prend, qui ne prend pas et qui est stable. Donc voilà, donc il y a les mousses, les émulsions et les gels. Alors, je n'avais pas envie de vous faire une mayonnaise. Vous savez, donc, je vais quand même vous dire quand même un petit truc. Donc, on rate une mayonnaise, c'est facile. Hein, bon. Et la question, c'est de se dire, mais pourquoi ça rate? Ça, c'est quand même un mot. Et donc, c'est parce que quand vous prenez un jaune d'œuf, j'ai quand même vous donner la solution. Un jaune d'œuf, c'est moitié eau, moitié huile, en gros. Mais il y a un truc en plus, parce que si vous mettez dans un verre moitié eau, moitié huile, ça se déphase. Or, quand vous regardez un jaune d'œuf, c'est une seule phase. Donc, ça veut dire que dans le jaune d'œuf, il y a quand même une molécule en plus, qu'on appelle des tensioactifs, qu'on va retrouver dans le savon, qu'on va retrouver dans la lessive, qu'on va retrouver dans pas mal de produits comme ça, d'ailleurs organiques. Et c'est une molécule qui va à la fois aimer l'eau et l'huile. Et donc, elle va aider à mélanger et à disperser ces gouttelettes. Donc là, si on avait vraiment un microscope très, très, très pointu, eh bien, on regarderait à la surface et aux interfaces, il y a cette molécule qui se met à la fois dans l'eau et dans l'huile. Et donc, quand vous ratez une mayonnaise, en fait, vous versez souvent l'huile d'un coup et vous ne laissez pas le temps à ces tensioactifs de venir enrober les gouttelettes d'huile que vous êtes en train de faire. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut que la taille soit identique. C'est-à-dire que si vous avez des tailles toutes identiques, eh bien, les petites bulles ne vont pas bouger les unes avec les autres. Il n'y a pas une qui va manger l'autre et devenir encore plus grosse, et ce sera plus stable. Donc, pour réussir, vous voyez, on a compris les échecs, et donc maintenant, on va réussir. Donc, effectivement, il faut agiter fortement. Alors, nous, au labo, on fait ça avec des cuves ultrasons, c'est très rapide. Mais bon, vous pouvez prendre un fouet à l'ancienne, on va dire, hein, mais... Donc, on agite et on verse un filet d'huile très, très fin. Et là, il n'y a plus d'histoire de chef, d'astuce, de je mets la pincée de sel avant, je tourne en huit, je ne sais pas quoi, c'est une danse du ventre. Enfin, tous les trucs d'astuce de chef qui ne servent à rien souvent. Hop, on débalaye et parce qu'on va rationaliser un peu la cuisine. Voilà un peu en un mot ce qu'est la science de la cuisine. Et les points communs, bah là, c'est quoi? C'est des forces de gravitation, c'est des tensions, des surfaces, etc. Et c'est la même physique finalement. C'est ça qui est rigolo. C'est ce qu'on va essayer de vous défendre et de démontrer ce soir.
Exactement, et on voit que la démarche est la même. Alors ouais, moi, il y a une petite différence en astrophysique, c'est que je ne peux pas interagir directement avec les objets d'étude. Hein. L'univers lui-même est trop vaste, les planètes sont trop lointaines, voilà, les galaxies également. En revanche, l'approche modèle, d'une part, expérimentation, d'autre part, ou observation, s'agissant de l'astrophysique, permet d'avoir cette démarche de confrontation entre modèle et observation, ou modèle et mesure. Et aussi le côté prédictif des modèles et le côté invalidant des observations ou des mesures qui fonctionnent aussi en astrophysique. On voit que la science est quand même à la même démarche, même si au quotidien, ce n'est pas complètement simple. On continue dans l'histoire de l'univers. On a été resté aux trois premières minutes de l'univers, quand il y a la nucléosynthèse primordiale, donc l'hydrogène maintenant, dont nous sommes faits, entre autres. Et puis, l'univers continue de s'étendre, de se refroidir. Mais dans cette expansion, pendant les premières années, il vibre. Il vibre parce qu'il y a compétition entre la gravitation, hein, il commence déjà à y avoir des petits grumeaux de matière, pour plein de raisons compliquées, mais en gros ça vient de l'inflation cosmique, selon les modèles actuels. Donc il y a des petits grumeaux de matière, donc des surdensités qui se mettent en place, et donc quand vous avez une surdensité dans un milieu relativement homogène en astrophysique, il a tendance à attirer son voisinage par effet de gravitation. Manque de peau, à cette époque-là, l'univers est très très chaud, très très dense, et donc la lumière, elle aussi, est couplée à la matière. En d'autres termes, la lumière est toujours avec la matière. Donc si vous mettez une concentration de matière, vous avez aussi une concentration de lumière. Et la lumière, elle ne se laisse pas enfermer comme ça. La lumière, quand on la condense, elle n'aime pas ça, elle pousse vers l'extérieur. Ça s'appelle pression de radiation. Donc il y a compétition entre gravitation et pression de radiation. Et donc les deux forment un système dynamique, un peu comme les bulles de l'émulsion de tout à l'heure. Ça oscille. Ça oscille tout le temps à différentes fréquences, et ces fréquences sont caractéristiques de l'univers lui-même, un peu comme une cloche que vous faites teinter. Elle n'a pas un son par hasard, elle a le son qui correspond exactement à sa matière, à sa taille, de sorte que les ondes stationnaires en l'occurrence qui se développent donnent un son caractéristique. Alors je vais vous faire quand même une expérience qui est comment on étudie mathématiquement ces vibrations au tout début de l'univers. Et bien c'est la même manière qu'on étudie les vibrations. Je vais vous faire une bulle de savon. Enfin, je vais essayer de vous en faire deux ou trois.
Géante.
Oui, alors j'ose pas le dire parce qu'en fait, elles ne sont pas si grosses que ça.
J'en ai déjà vu des...
Alors, je vais essayer de vous faire une bulle géante. Voilà, comme ça. On va essayer d'en faire deux. Alors, vous voyez qu'elle vibre, mais elle ne vibre pas par hasard. Elle ne vibre pas à ultra haute fréquence ou à trop basse fréquence. Elle vibre à la bonne fréquence par rapport à sa taille. Alors, bonne ne veut rien dire ici ce soir, mais les physiciens vous diront qu'elle vibre selon des modes propres de vibration, des fréquences propres. Qui sont en gros commensurables avec la taille de la bulle. Alors, je vais essayer de vous en faire une autre pour mieux voir si ça marche. Bon, il y en a une qui a marché, donc c'est bon, le contrat est rempli.
La preuve est faite,
voilà, la preuve par l'exemple. Oui, c'est bon. Alors attention au premier rang. Oui, ça vibre. Alors bon, il y a la gravité qui joue, mais elle vibre, elle tourne. Une dernière pour la route, parce que ça sera quasiment ma seule expérience. Et Et donc, le mode de vibration vous traduit complètement quelle est la nature de votre objet, sa taille, sa composition, son élasticité, s'agissant de la bulle. Bon, je ne crois pas que je ne sais pas si je vais y arriver. Ah, si, allez, une dernière pour la route. Hop. Voilà, on peut même en faire deux. Oui, ça vibre pas pareil. Et les petites vibrent pas pareil que les grandes, pour des raisons de taille caractéristique également. Eh bien, en physique et en mathématiques, on utilise le même formalisme pour étudier les vibrations des bulles de savon que vous venez de voir et les vibrations de l'univers qui vibre au tout début. C'est l'image de gauche, j'ai oublié de le préciser. C'est l'image obtenue par le satellite Planck juste après le Big Bang, 370 millions après le Big Bang. Et on appelle ça, le terme mathématique, ce sont des harmoniques sphériques. C'est une sorte de transformé de Fourier, pour ceux qui connaissent, transformé de Fourier sur la sphère. Et mathématiquement, on utilise le même outil pour la petite vibration que vous venez de voir, le fond cosmologique, donc la première lueur de l'univers, qu'on appelle fond cosmologique, là où l'univers vibrait encore, les vibrations du Soleil, parce que le Soleil vibre pour les mêmes raisons physiques, les vibrations également de la Terre, parce que vous savez que la Terre est soumise à des ondes sismiques, hein, parfois, et donc on utilise le même outil mathématique. Donc il y a une cohérence un petit peu dans l'outil mathématique.
Et aussi dans cette mousse de fruits que je vais vous faire. Alors. Donc là, l'idée, c'est on va refaire ces mousses-là. Moi aussi, je vais vous faire des bulles en direct. Alors, non pas avec. Alors, qu'est-ce que dans ta solution, tu avais pris un tensioactif, justement. On retrouve ce tensioactif de la mayonnaise. C'est lui aussi qui va permettre de stabiliser la bulle que vous a fait Hervé. D'accord ? C'est du savon, en gros. Hein. Et là, l'idée aussi, eh bien, c'est d'utiliser une autre façon en cuisine de créer des bulles. Alors, ce n'est pas de mettre de la levure chimique ou des choses comme ça. Mais ça va être d'utiliser une petite réaction. Alors, ici, vous avez un coulis. Vous voyez bien, je pense, là, un coulis de fruits qui est très sombre, des myrtilles. Myrtilles cassis, on appelle ça des fruits rouges. Ils sont plutôt noirs, parfois rouges. Alors pourquoi ? Le pigment, en fait, il dépend justement de l'acidité. Et si vous le cuisez dans de l'eau riche en bicarbonate, ou de l'eau gazeuse par exemple, eh bien, il devient assez noir, mais il se charge aussi de bicarbonate. Ça, c'est intéressant parce que carbonate, ça peut faire du CO2 et ça peut faire des bulles de gaz. Alors, on va y mettre dedans un jus de citron très, très concentré. Et alors, carbonate plus acide. Alors là, je ne sais pas s'il y a des chimistes dans la salle, mais ça va forcément faire du CO2. Donc, on va créer les bulles de gaz. Mais on a des pectines qui sont aussi des tensioactifs, donc ils vont permettre de faire tenir ces bulles de gaz créées. Ça ne semblera pas comme un effet algan ou je ne sais pas quoi. Et la chimie vous apprend aussi que ce pigment rouge, qui était noir ici dans du bicarbonate, il peut devenir rouge en milieu acide. Donc, conclusion, on va faire l'expérience, après on va voir en cuisine ce qu'on pourrait en faire. On va verser un peu de jus de citron dans... Et voilà, on a bien fait de mettre une feuille. Et vous avez une mousse rouge qui apparaît spontanément. D'accord ? Alors là, vous avez ancré. Alors là aussi, elles vibrent, hein. Sauf qu'elles vibrent, oui. On ne les voit plus parce qu'elles sont tellement petites qu'elles vont vibrer à des fréquences encore plus élevées. Et vous voyez une magnifique mousse ici qui tient. Ça ne retombe pas. Et ça retient parce qu'il y a une texture naturelle d'ailleurs dans les fibres du fruit. Et alors là, on avait un coulis noir. Ça devient une mousse rouge. Donc ça peut être rigolo. Alors après, l'intérêt, c'est de travailler avec un grand chef pour donner ces informations scientifiques pour faire une cuisine innovante. Et vous imaginez maintenant une mise en scène dans un beau restaurant, un petit gâteau au chocolat, cerise griotte, chantilly vanille, forêt noire, un coulis de fruits noirs, et le serveur arrive avec un jus de citron, et vous avez une forêt noire, forêt rouge en effervescence. Et là, hop, on voyage et on est dans les étoiles, d'ailleurs. Mais voilà. Mais c'est l'idée de comprendre et pourquoi ça retombe, pourquoi ça tient, pourquoi ça coagule, etc. Et là, on retrouve justement... Alors, on n'a pas besoin de faire une transformée de Fourier en cuisine, mais l'idée, c'est quand même de comprendre un peu ce qui se passe dans la notion de surface et de compétition surface-volume. Alors, ensuite... On abordait la notion de mousse, justement. Ouais,
alors de mousse et d'expansion. Ouais. Je commence par l'expansion. Ouais, vous voyez qu'on improvise à chaque fois. Hein. C'est ça l'intérêt de cette...
La conscience ne s'ennuie pas.
Hein. Voilà, on ne s'ennuie jamais. J'espère que vous non plus. Donc, je poursuis l'histoire de l'univers. Le fond cosmologique traduit les vibrations de l'univers durant les 370 000 ans, les premières années. Et puis, l'univers est toujours en expansion. Hein. Aujourd'hui, on le mesure comme étant en expansion et même en expansion accélérée. On ne comprend pas vraiment pourquoi. On doit introduire un fluide, ce qu'on appelle l'énergie sombre, qui permet de résoudre un peu tout, mais en fait, on ne connaît pas vraiment sa nature, ce qui est l'objet de, notamment de la mission spatiale Euclide qu'on va lancer dans quelques années, avec une mission européenne avec une très forte contribution française. Et vous avez cette image à gauche, qui est l'une des images les plus profondes obtenues par le télescope spatial Hubble de la NASA et de l'Agence spatiale européenne. On voit plein de galaxies. Il n'y a pas d'étoiles sur cette image, plein de galaxies très très lointaines et qui montrent que plus on va loin, plus en fait elles s'éloignent à une vitesse de nous à forte vitesse Et donc l'univers est relativement vide et en expansion. Alors on nous pose toujours la question, ça s'expand dans quoi? Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang, etc. On pourra en reparler, pareil, ça peut faire l'objet d'une conférence complète. Mais pour faire simple, c'est vraiment c'est l'espace-temps qui se dilate à quatre dimensions, hein, trois dimensions d'espace, une dimension de temps. Et puis c'est difficile de concevoir que ça s'expande en rien, mais en fait ça marche très bien en relativité générale et en cosmologie. Et on n'a pas besoin de se poser la question dans quoi ça s'expand, puisque c'est tout qui s'expand. Mais voilà, c'était le résumé très court de quelque chose qui pourrait durer des heures. Et alors, le vide et l'expansion peuvent être utilisés mais également oui. En cuisine, parce que l'origine physique n'est pas exactement la même, mais l'effet est peut-être plus intéressant.
Ça donne des idées aussi. Tu parlais au début de transdisciplinarité, et quand on a fait les premières conférences ensemble il y a quelques années, et bien justement d'entendre Hervé parler d'expansion, je me suis dit, mais ça c'est rigolo, parce que cette mousse qui est jolie, ou une mousse au chocolat par exemple, ou un gâteau, quand vous mettez de la levure chimique, vous essayez de votre gâteau, ah, il est bien bon, il est bien gonflé, il est joli. Mais vous espérez surtout que quand vous ouvrez la porte du four, ils ne sont pas en train de retomber comme un soufflet. Et d'ailleurs, est-ce que les soufflets, on pourrait vous faire aussi des soufflets qui ne retombent pas? Ça peut être intéressant, des vrais défis de cuisine encore en 2018. Hein. Et je pense qu'en 2019, on se posera encore la question d'ailleurs. Mais donc, c'est de dire, je vais faire un gâteau, je vais mettre un peu de levure, mais est-ce que je peux faire un super gâteau, un ultra sponge cake? Vous voyez l'esprit un peu, ou des biscottes. Et donc, cette expansion, ça nous a donné des idées justement. Et donc, on a rendu complètement étanche un four. Donc, on fabrique les nouveaux outils de cuisine aussi au laboratoire à Orsay. Et donc, on a rendu complètement étanche, on a aspiré pendant qu'on cuit. Et donc, vos bulles que vous avez créées, vous pouvez aspirer, vous les dilater aussi. Donc là, elles s'expansent cette fois dans le four et pas dans rien. Mais bon, ça reste dans l'univers. Et donc, elles s'expansent. Et après, il faut que ça fige. Il y a plein d'astuces, hein, de la farine, des œufs, des machins. Enfin bref, et donc, il faut que ça tienne. Et donc là, par exemple, vous avez des textures. Alors ça, c'est un bout du four. Et puis là, vous avez un gâteau au chocolat, justement. Oui, merci. Alors là, vous avez un gâteau au chocolat expansé. Voilà, donc un ultra sponge cake au chocolat sans levure. Il n'y a plus besoin d'être de levure en fait dans ce four-là. C'est ça qui est assez génial. Et puis là, vous avez un baba au rhum. Pareil, enfin, il n'est pas encore dans le rhum, mais justement, il va bien se gorger de rhum parce qu'on a augmenté les bulles et la surface des bulles notamment. Donc, ça va être aussi en termes de texture et de saveur, ça va tout changer. Alors, on voulait vous parler aussi du coup de mousse au chocolat.
Oui,
c'est maintenant. Hein.
Oui, je crois que c'est maintenant.
On ne sait plus. Bon, alors, comment fait-on une mousse au chocolat? En deux mots. Alors, on n'a pas les petites tablettes, mais. Qu'est-ce qu'il vous faut pour faire une mousse au chocolat?
Vos recettes, c'est quoi?
Des œufs en neige. C'est ça qui mousse. C'est la mousse, en fait. D'accord. On va mettre du chocolat quand même dedans? Oui. Oui. Du chocolat. Donc, et les jaunes dans le chocolat. Bah oui, parce que... OK. Donc, ouais. Alors, on fait souvent les jaunes avec le sucre. On fait blanchir. On rajoute ce chocolat fondu. Je la fais rapide. Et puis à côté, on a cette mousse de blanc et c'est ça qui va mousser. Donc, si je caricature un petit peu, c'est ces blancs en neige qu'on aromatise au chocolat. Bon, on s'est dit, mais pourquoi on met des œufs? Pour faire la mousse. D'accord, mais aujourd'hui, on sait mettre des injecteurs de gaz, on sait faire des bulles peut-être par différentes façons. Et pourquoi on met du beurre? Pourquoi on met du sucre? Pourquoi on met des œufs? Et pourquoi on met d'autres choses que du chocolat finalement? Parce que nous, ce qu'on veut, c'est soit on mange le chocolat parce que c'est bon tel quel et on le croque. Il y a même un club de croqueurs de chocolat à Paris. Bon, il faut bien être à Paris pour avoir ça. Et sinon, vous décidez de faire fondre le chocolat parce que vous voulez une texture chocolat. Mais surtout, quand vous parlez avec un grand chef, et même vous d'ailleurs, si vous faites plaisir à acheter une tablette à 5, 6, 10 euros la tablette, des fois, on n'a pas envie de massacrer les goûts avec plein de choses qu'on rajoute dedans. Le jaune d'œuf, ça a du goût. Le sucre, ça vous dilue les saveurs, etc. Et donc, on se dit, réfléchissons à ce qu'est une mousse au chocolat. Et donc, pareil, mousse, gel, émulsion, c'est une émulsion mousseuse. Voilà, c'est une mousse au chocolat.
Ouais.
Et donc, on va pouvoir simplifier. Et donc, voilà la recette que je vous propose. Vous pouvez la tester, peut-être pas ce soir, mais demain. Dans une casserole, vous mettez moitié eau, moitié chocolat. En gros, hein, chocolat bloc. Vous mettez à fondre, vous faites une émulsion, corps gras, eau. Vous faites une émulsion, vous la mettez dans un siphon. Et ce siphon, vous voyez, s'incorpore, ça injecte des bulles de gaz. Parce que vous utilisez ici, alors, c'est pas de l'air, c'est du N2O, c'est du protoxyde d'azote. L'intérêt, c'est qu'il est plus dense que l'air. Donc, du coup, la mousse, elle va encore moins retomber. Vous voyez? Et là, vous avez injecté du gaz. Donc, vous avez injecté du gaz dans une émulsion. Vous laissez tout au réfrigérateur. Et on va regarder ce que ça donne.
Je vais mettre la caméra.
Ouais. Si c'est réussi seulement. Donc, vous laissez refroidir. Et là, vous avez votre émulsion mousseuse. Vous voyez? Eau, air, chocolat. Voilà, c'est ça qui suffit pour un chimiste pour décrire une mousse au chocolat. Alors, on va regarder ce que ça donne maintenant. Généralement, c'est le moment préféré d'Hervé.
Je confirme.
Voilà. Vous voyez, ça ne retombe pas. 4 fois moins de calories qu'une vraie... que la mousse au chocolat traditionnelle, on va dire. Et là, surtout, quand on va goûter, ça, c'est ta cuillère, c'est la mienne.
Voilà. Maintenant, en fait, c'est pour ça que je fais cette conférence
voilà,
uniquement.
Je m'adapte et je change la taille des cuillères à chaque conférence.
C'est pour ce
la
moment.
Prochaine fois, c'est la louche.
C'est pour ce bon. Moment de grâce.
Et vous voyez, c'est ultra fondant, c'est très soyeux. Alors ça, c'est un chocolat, et il travaille avec nous d'ailleurs, c'est chocolat Valrhona Itakuja. C'est-à-dire qu'il y a une acidité légère parce que c'est torréfié bon. Avec des fèves. Les fèves de cacao et le fruit de la passion sont torréfiés ensemble. Donc il y a une vraie histoire derrière et on ne sent que ce chocolat. C'est-à-dire qu'on n'est pas parasité par des goûts. Donc il y a un intérêt gustatif, il y a un intérêt d'abord de texture et puis il y a un intérêt aussi d'un point de vue calorique, c'est-à-dire plaisir, bien-être et santé. Ce n'est pas incompatible tout ça. Vous voyez, c'est ça. Alors maintenant, on pourrait rajouter un petit gélifiant, mettre un œuf ou je ne sais pas quoi, faire cuire, expanser sous vide. Et là, vous avez des textures complètement inédites. Voilà. Et donc, voilà ce qu'est une mousse au chocolat. On peut l'expanser, on peut encore innover. Donc, on travaille à Orsay sur toutes ces choses-là. On se repose des questions de base et puis on trouve des nouveaux outils.
Exactement. Donc, vous voyez que science et plaisir.
Et on peut manger ces échantillons. C'est quand même assez c'est un vrai luxe pour un chimiste.
Alors, on a aussi une analogie avec cette image d'émulsion et de sponge cake, ultra sponge cake. Si vous prenez la mie qui est un petit peu en bas à droite ici, alors on voit bien que c'est une sorte de mie d'un petit gâteau. Donc, c'est une image prise proche de ce petit cake spécial made in...
Space cake.
Voilà, du space cake de Raphaël. Bref. Cependant, si on ne mettait pas l'échelle, cette structure ressemblerait aussi à la distribution des galaxies à très très grande échelle. Donc au lieu d'avoir ici 4 cm, si on mettait ici quelque chose comme 100 gigaparsecs, donc des 100 milliards, 300 milliards d'années-lumière à la louche, hein, je vous la fais à la louche, on pourrait, alors je ne l'ai jamais fait, mais il faudrait qu'on le refasse, on pourrait avoir des structures qui ressemblent, c'est-à-dire que la matière se met sous forme de grandes structures, forme de filaments, de vide et de plein, qui ressemblent un petit peu à cette structure. Donc on voit que les contingences et les forces en présence aboutissent, parfois de manière un peu inattendue, là c'est plus une coïncidence, mais la forme des forces se ressemble, aboutissent à des structures similaires à grande et à petite échelle. De même qu'il y a une similarité entre ces grandes structures qui se mettent sous forme de filaments, d'amas de galaxies, etc., ressemblent aussi incidemment à la structure des neurones dans notre cerveau. Ouais. Ça fait un peu des nœuds et des filaments qui partent comme ça. Bon, là, les processus sont complètement différents. Donc, c'est une pure analogie. Alors, la séquence d'après concerne la gravité. La gravité est quand même la force principale à grande échelle dans l'univers. Hein. La gravité est très peu, à une intensité très faible à petite échelle, hein, où les forces électromagnétiques fortes et faibles, nucléaires, dominent. Mais à très, très grande échelle, c'est la gravité qui domine. Et donc, la gravité, c'est ce qui donne la forme aux astres. Alors, on a cette très belle image à droite dont on fête les 50 ans, d'ailleurs, dans 10 jours, 15 jours, Noël 1968, prise par Bill Anders à bord d'Apollo 8, donc autour de la Lune. Donc c'est une très belle image qui a un peu révolutionné la vision du monde, qui montre la Terre bien ronde, et la Lune, bon, on ne la voit pas bien, mais on sait qu'elle est à peu près ronde. Et donc, c'est la gravité et les forces, un petit peu d'autres forces, mais qui provoquent cette forme quasi sphérique. Hein. Il y a aussi des forces un peu de mécanique des fluides qui interviennent, mais voilà, la gravité est le principal moteur. Et bien, il se trouve que la gravité ou l'absence de gravité peuvent aussi aboutir à des innovations pour la planète, disons-le simplement.
Mais oui, oui, mais c'est vrai que la gravité, c'est ça qui va contrôler vos blancs neige. Enfin, quand on parlait de la mousse au chocolat, c'est pour ça aussi que ça retombe. Le drainage, il faut savoir que l'air est à peu près 1000 fois plus léger que l'eau. Donc forcément, on sent qu'il y a des problèmes de densité. Et donc, par gravité, ça va tomber. Mmh. Et puis, effectivement, quand tu parlais des planètes qui avaient des formes sphériques, mais quand il pleut, ben, il ne pleut pas des carrés d'eau ou des cubes d'eau ou des espèces de plaquettes ou des formes... Il pleut des gouttes d'eau, des sphères parfaites. Tout ça, ce n'est pas un hasard. La sphère, c'est vraiment un beau volume qu'on va retrouver partout dans la nature, pour aussi des compétitions, d'ailleurs, surface-volume. Mais c'est aussi par gravité que ces formes se font. Alors, ici, pour illustrer un peu tout ça, on a pris des algues brunes qu'on a mis ici dans un sirop à l'amande qui n'a pas plus d'intérêt que ça, mais vous pouvez après transposer ça avec un kir, avec justement des myrtilles qui vont bien, des cassis, pêche, enfin tout ce que vous voulez. Et on va faire tomber au goutte à goutte ces petites billes dans de l'eau riche en calcium. Alors je ne sais pas si on voit bien à la caméra.
Vous voyez les petites bulles ?
Les petites billes. On va les sortir après, on va aller à la pêche.
Voilà. Et
Donc, on forme comme ça des petites gouttes. Et l'intérêt, c'est qu'on fait un gel. Comme ça, je vous aurais parlé mousse, gel, émulsion. Et on va faire une gelée, fine gelée, très très fine autour des gouttelettes parce que les algues vont s'accrocher en présence de calcium et vont former un petit gel. Alors, l'intérêt, c'est que eh bien, vous allez pouvoir... Alors, j'ai oublié mon épuisette. Vous allez pouvoir encapsuler le liquide. Alors, je ne sais pas si on voit... Voilà, vous voyez ce petit œuf ici. Mais quand j'appuie, tac, c'est liquide. Donc, ça veut dire que quand je vais manger ça, alors imaginez maintenant dans du champagne, des petites billes de myrtille, etc. Noël arrive, vous allez pouvoir épater vos amis et votre famille. Mais vous voyez, ça va bouger comme ça dans le verre. Et quand je croque, alors j'ai le kir qui apparaît. Donc, il y a un aspect, on dit ludique, mais surtout un aspect dynamique de dégustation. C'est ça qui m'intéresse le plus. Et c'est par gravité que ces petites billes sont tombées. Alors, on y va à la gravité maintenant parce qu'on s'est dit deux choses. D'abord, j'aimerais bien peut-être faire des bulles les plus grosses possibles. Donc, on a tous vu ça, des images justement dans l'espace où ils appuient sur une bouteille d'eau et d'un coup, vous avez des formes comme ça qui apparaissent. Mais si on arrive à attraper cette forme et faire cette gélification, on pourrait faire des formes un peu rigolotes. Donc, à Orsay, on a inscrit des étudiants et on a pu faire un vol parabolique pour faire cette manip, mais en microgravité. Voilà. Et alors, on est tombé sur... Quand même, un autre aspect, ouais, juste ça d'abord. Oui. C'est-à-dire qu'on peut, on s'est dit, j'ai dit aussi à mes étudiants, mais essayez de faire les billes les plus grosses possibles. C'est plus intéressant, parce que ça, c'est rigolo. Mais, et alors, pas mal de recherches quand même derrière, et on est arrivé là-dessus. Alors ça, c'est 12 centilitres d'eau, encapsulée, pareil, c'est à peu près la même technique, dans une membrane qui est vraiment biodégradable, un vrai bioplastique. On n'a pas le temps de trop rentrer dans les détails, mais c'est à la mode en ce moment. Hein. Il faut attendre que ce soit à la mode. Mais, donc là, on travaille dessus. Et alors, l'idée, ça va être simple, c'est je perce. Il faudrait que je me débarrasse de ce truc-là un jour aussi, hein, on est d'accord. Mais je perce, je bois. L'idée, ce n'est pas qu'on accroche et puis qu'on se prenne la tasse, hein, tout encapsulé d'un coup, Mais voilà, donc là, on a 12 centilitres d'eau, mais on est vraiment sur un vrai contenant comestible éventuellement, parce que là on y a mis des zestes d'orange pour parfumer. Et sinon, on se dit, oh, moi, je ne veux pas manger ce truc un petit peu caoutchouteux. Je mets dans la terre, mais on a fait les tests. 10 jours, il n'y a plus rien. Des algues, finalement, qui retombent. Donc, tu es vraiment sur du 100% végétal. Et voilà comment on peut passer de la cuisine dite moléculaire, qu'on a tous vu un peu caricaturale avec des petites billes, là, à des choses où on continue de réfléchir sur cette notion de biomimétisme qui nous intéresse, parce que vous regardez une petite tomate cerise, finalement, il y a une peau très très fine. Et une tomate, c'est 95% d'eau. Donc, la nature, elle a déjà fait bien avant nous des stratégies pour encapsuler, pour conserver de l'eau, réfléchir sur des membranes semi-perméables, etc., etc. Donc, c'est ça aussi, c'est s'inspirer du biomimétisme qui nous motive. Donc, voilà. Alors ça, du coup, on a pu faire ce vol en microgravité pour tester ce geste tout simple. Hein. Je perds, je bois. Et est-ce que ça peut, alors, pas aider les astronautes, j'en sais rien, mais au moins, quand ils partent, sur l'ISS, hein, ils ne partent pas avec 15 000 packs d'eau pour les 6 mois, pour tout le monde. Ils fabriquent l'eau in situ, il faut l'encapsuler, comment on fait, ils boivent comme des lapins, enfin ça ne le dit jamais, mais c'est assez rigolo. Mais... Voilà, donc on a pu faire ce vol. Donc on a fait un test en microgravité avec Jean-François Clairvoy et Thierry Marx et nos étudiants d'Orsay. Alors donc on prend l'avion au-dessus de Brest, l'avion est à 8 000 d'altitude, il va donc s'incliner de 45 degrés, donc on se prend 2 G. Alors, c'est pour ça que Jean-François Clairvoy nous montre que la bulle, en gros, elle tombe deux fois plus vite, hein, deux fois la gravité. Et puis ensuite, alors nous, on est très sages, vous voyez, hein, c'est une parenthèse, mais on nous a dit, si vous tournez la tête à 2G, vous vomissez avec les histoires d'oreilles internes. Donc forcément, comme on était filmé avec Thierry, on disait, oui, c'est très intéressant ton truc, là, nous, on ne regarde pas, on s'en fout, voilà. Bon, et après, donc, l'avion, il décroche, enfin, il accroche jamais, mais enfin, on ne va pas rentrer dans la technique, mais... Et, il bascule et là, on est comme en chute libre un peu et donc on a 20 secondes de microgravité et on a pu faire ce test de je perds, je bois, etc. On a fait 30 fois la manip. Hein. Donc là, vous avez une fois. Vous voyez, c'est pas si simple. On va perdre Thierry très, très rapidement. Donc, c'était pas si simple comme manip, mais c'était une super aventure humaine avant tout, d'ailleurs, plus que scientifique. Mais, voilà. Et après, on retombe un peu lamentablement à nouveau à 2G et on fait ça 30 fois. Voilà. Bon. Mais, voilà,
ça a l'air de faire mal à la tête.
Et ça fait un peu mal à la tête à la fin, mais j'y retournerai sans problème. Oui.
On peut surgeler.
Alors oui, on est en train de faire les tests, exactement. Et là, on est vraiment sur la problématique des matériaux très bonne remarque, c'est-à-dire que on est en train de voir si on peut pasteuriser, si on peut surgeler, si ça tient. Vous voyez, je lâche sur la table, ça rebondit, donc ça absorbe les chocs, mais est-ce que ça ne va pas casser? Voilà, donc on travaille, c'est vraiment une approche matériaux pour le coup, composite aussi avec les fibres végétales qu'on pourrait mettre dedans pour renforcer la structure, etc. etc. Donc voilà des pistes, et ça mène de l'assiette en microgravité. Une réflexion pour Thomas Pesquet après, parce qu'on a travaillé avec lui, du coup, et Thierry a signé aussi ses plats, entre guillemets, de comfort food. Enfin, voilà, donc c'est ça qui est beau dans la recherche, et on ne sait jamais où on va. Et on apprend par les chemins et on rencontre des gens formidables, etc. etc.
Donc voilà. C'était assez inattendu de voir.
Et tout ça sur la petite expérience de gravité.
Voilà, ouais. Et que le CNES, donc l'Agence spatiale française, ouais, nous travaillons chacun dans nos domaines respectifs pour la même Agence spatiale française.
Parce qu'il y a des problématiques presque universelles.
Les sont assez larges.
Exactement.
Alors la gravité donc façonne les astres et puis permet des innovations culinaires et puis même des notions de nourrir la planète de manière beaucoup plus
saine et responsable. Une cuisine durable. Ouais.
Quand il n'y a pas assez de gravité ou quand il n'y a pas assez de masse, la gravité n'a pas le temps de jouer son office. On a ici à droite une image d'un sol de comète, la comète Churyumov-Gerasimenko, sur laquelle on s'est posé en 2014, nous les Européens, avec la mission Rosetta et l'atterrisseur Philae. Il se trouve que cette image provient vraiment du sol de la comète, a été prise par les caméras, entre autres développées à Orsay, par l'IAS, et donc c'est vraiment des photos in situ. Et là, on voit en fait que la comète n'est pas du tout... Alors, on ne le voit pas vraiment là, mais enfin, on imagine que c'est très rocailleux, c'est pas vraiment sphérique. Hein, la forme de la comète, c'est un peu comme un canard. C'est un corps qui n'a pas eu le temps d'évoluer. Et donc, on peut imaginer ces petits corps du système solaire un petit peu comme les miettes d'un tiramisu que vous cuisineriez. Donc, vous faites votre tiramisu, vous mettez vos ingrédients, vous laissez au frigo et ça a le temps de s'imbiber, de se mélanger un petit peu, ça fait le bon goût caractéristique. Mais sur les bords, il y a des petites miettes et les petites miettes, elles ne se sont pas mélangées, elles restent soit du biscuit, soit de la mascarpone, je crois, c'est ça, ou soit
c'est
du. Et donc, en fait, les petits résidus, en fait, vous témoignent directement de la composition initiale de votre recette, en quelque sorte. Et donc, les astéroïdes et les comètes, éventuellement les petites planètes, mais elles ont déjà beaucoup évolué, sont des témoignages pour les astrophysiciens directs des conditions initiales du système solaire. C'est pour ça que les collègues mettent beaucoup d'importance à aller récupérer des informations. Et en ce moment, il y a un astéroïde sur lequel les Européens, les Japonais sont. Les Américains viennent aussi d'arriver sur un autre astéroïde pour essayer de prélever des échantillons, les ramener et en tout cas de les analyser. Donc quand la gravité n'a pas eu le temps de jouer, ça nous sert d'éclaireur des tout débuts du système solaire. On va aborder une autre force dans la nature, qui est la force centrifuge, qui est une fausse force, qui est une force d'inertie. Moi, j'enseigne ça en première année à l'université à Orsay. Et donc, c'est intéressant de noter que la force centrifuge est aussi à l'origine de cette belle forme de galaxie. Alors, c'est une vraie image, mais c'est prise dans l'infrarouge avec un satellite qui s'appelle Spitzer, où on voit cette belle forme un peu en spirale qui est due en fait à la vitesse de rotation, notamment de ces galaxies. Alors, c'est là où peut-être le système de vote va peut-être fonctionner. Donc, si vous avez un smartphone ou quelque chose, je peux essayer de vous tester ce qu'on fait. Il y a 29 participants, c'est très bien. Donc, si vous avez le temps, vous pouvez encore vous connecter sur wooclap.com. Et puis, je vais vous poser une question complètement ouverte. C'est selon vous, vous avez vu une galaxie, vous n'avez qu'un chiffre à donner, vous n'avez qu'un choix possible. Quel est le composant principal d'une galaxie? Alors, tapez 1 pour les étoiles, tapez 2 pour les planètes.
Ça s'appelle une émission, ça.
3 pour gaz, poussière interstellaire, 4 matières noires et 5 trous noirs. Alors, si vous ne savez pas, mettez au hasard.
Ami.
Voilà. D'habitude, je mets ne se prononce pas, mais là, j'ai pas eu le temps. Et donc, on peut voir le nombre de réponses qui s'affichent, et puis on va voir ce que vous pensez. Alors, je pense que le public ici, étant un public d'habitués pour l'essentiel, on va peut-être pouvoir converger vers la bonne réponse, mais on va voir. Donc, vous étiez une vingtaine, on vous laisse une dizaine de secondes, ceux qui arrivent à se connecter. Donc, moi, je fais ça dans mes amphis avec 120 étudiants, et ça marche très, très bien. Ils sont au taquet, et c'est aussi bien pour eux que pour moi. Bon, allez, on va dévoiler. Et sous nos yeux ébahis, vous mettez...
Ah, quand même.
Poussière interstellaire en deuxième, matière noire en premier et trou noir en troisième. Alors, vous avez essentiellement raison. On pense que la composition principale d'une galaxie le composant principal, c'est la matière noire. C'est très mystérieux, c'est une matière qu'on ne connaît pas, mais dont on a besoin d'invoquer la présence pour expliquer la dynamique d'une galaxie. Je vais vous expliquer ça dans un instant. Alors les trous noirs sont... En fait, tous ces éléments sont présents dans les galaxies. Là, en ce sens, tout le monde a raison. Mais en termes de quantité, c'est vraiment dominé par la matière noire. Plus de 80 ou 90%, disons 80% de la masse d'une galaxie est composée d'une matière noire. Après, le gaz et la poussière interstellaire, c'est tout petit, c'est moins de 1% de la masse d'une galaxie. En revanche, c'est très important pour donner la couleur d'une galaxie. Parce que si vous mettez un tout petit peu de poussière ou de gaz interstellaire, ça change complètement l'émission, enfin la lumière des étoiles, et donc ça modifie complètement le spectre des galaxies. Donc c'est très important d'un point de vue physique et observationnel, et c'est négligeable en termes de masse. Donc vous voyez que vous pouvez être important ou pas important en masse, mais avoir quand même une importance. Bon, les étoiles et les planètes, alors les planètes sont très négligeables, hein, c'est moins de 1% de la masse des étoiles en général. Les étoiles composent à peu près une dizaine de pourcents de la masse des galaxies. Et les trous noirs, alors il y a des trous noirs, mais leur masse varie et en général, ils ne dominent pas la masse d'une galaxie. Alors la matière noire, alors, et on aura encore une question tout à l'heure, donc si vous êtes connectés, restez connectés. On y reviendra tout à l'heure. En deux mots, comment on arrive à comprendre qu'il y a de la matière noire? C'est avec cette force centrifuge. Alors je vais sortir mon outil favori pour une deuxième expérience. Alors profitez-en bien parce que moi je fais pas beaucoup
de la technique là.
Alors là c'est très technique. Vous voyez que dans le spatial on est très high tech. Donc heureusement on n'envoie pas nos satellites avec ça, je vous rassure. Donc j'ai pris un petit pendule que j'ai fait avec ce que j'ai trouvé à la maison. Et pour expliquer la présence de la matière noire, l'une des arguments c'est de dire que les étoiles tournent trop vite par rapport à la masse qu'on observe. Alors imaginons que la matière noire n'existe pas, on observe la vitesse des étoiles qui sont sur le bord, je vais faire simple pour la discussion, pareil, on pourrait y passer des heures. Mais prenons les étoiles qui sont tout au bord, là. Et ça, on peut mesurer leur vitesse, même si on ne les voit pas tourner, puisque ça met des millions d'années, on peut mesurer leur vitesse. Donc elles vont à une certaine vitesse. Alors imaginons ici, dans le petit modèle, toujours l'approche scientifique, si je ne m'emmêle pas les pinceaux, imaginons que ça soit ça l'étoile, le petit tube. Et donc l'étoile tourne autour de la galaxie, et la galaxie, c'est ma main. Et la force qui relie l'étoile au centre de la galaxie, c'est la force de gravitation. Ici, c'est le fil, parce que je ne vais pas m'amuser à faire tourner gravitation. Donc l'étoile, c'est le tube de colle, la force de gravitation, c'est le fil, et le centre, la masse centrale, c'est ma main, et pareil pour la galaxie. Donc on voit une certaine vitesse qui tourne, ça veut dire qu'en fait, la masse au centre est suffisamment forte pour attirer l'étoile. Hein, donc le fil est suffisamment bon. Manque de bol, quand on observe la vitesse des étoiles et qu'on mesure la masse de la galaxie, en fait, les étoiles tournent 10 fois trop vite par rapport à la masse qu'on observe. Alors, je ne vais pas le faire, ça veut dire que le fil casse et les étoiles partent à perpète. Voilà. Ça, c'est quand on observe juste la masse baryonique, c'est-à-dire la masse ordinaire des galaxies. Donc, on se dit soit la gravité est fausse, soit la masse de la galaxie est plus élevée que ce qu'on mesure. Parce que si on met une masse plus élevée, là, c'est bon, tout est cohérent. Les vitesses des étoiles sont grandes, mais peuvent rester au sein de la galaxie. Et donc depuis les années 1933, on sait ça depuis quasiment un siècle, il y a un problème de masse manquante dans l'univers. Mais c'est que, disons, à partir des années 80, qu'on a compris, 1980, que ça ne pouvait pas être de la matière baryonique, c'est-à-dire de la matière ordinaire, parce que ça, on aurait dû la voir par plein de processus. On a quand même des bons télescopes. Donc on est convaincu maintenant qu'il existe une matière qui gravite, mais qui ne rayonne pas. Donc le nom est venu assez rapidement, c'est de la matière noire. C'est probablement une matière exotique, mais on n'en sait trop rien. Alors les neutrinos, c'est probablement pas suffisant, donc il faut d'autres matières. Mais vous voyez que la dynamique, c'est-à-dire le fait que ça tourne, et vous mettez de la gravitation, de la dynamique, vous avez une bonne théorie à côté, et vous arrivez à découvrir des composants obscurs de l'univers, si votre théorie est bonne. Il se trouve que la théorie, on a relativement bien confiance, parce qu'il y a des ondes gravitationnelles qui sont détectées par ailleurs. Enfin, il y a tout un tas de faisceaux, d'indications qui nous laissent penser que la gravitation marche bien. Après, voilà, je ne suis pas devin, je ne sais pas si dans 5-10 ans, on remettra en cause la relativité générale, mais en tout cas, à ce jour, le modèle de matière noire est quand même très, très, très plébiscité, même si ça pose de grandes questions. Et il se trouve que la force centrifuge a aussi de très grandes applications plus proches de
des
nous.
Des nouvelles, oui.
Vous voyez le lien.
Les soroses
le
à
lien.
Salade, là, c'est sûr. Mais oui, alors on a les soroses à salade, mais enfin, on a mieux quand même aussi. Vous prenez une centrifugeuse de laboratoire. Alors, c'est des choses qui existent largement, d'ailleurs, en biologie. Et l'innovation, c'est aussi ça, de changer un peu de monde ou d'univers et puis de prendre des choses qui existent, mais de mettre ça, par exemple, en cuisine. Et alors, par exemple, très concrètement, donc, cette centrifugeuse, vous prenez un jus de tomate. Vous avez une couleur, une saveur, une texture, voilà. Et vous la mettez à 4000 tours minute et donc par force justement centrifuge, vous allez pouvoir séparer tous les éléments qui étaient dans ce jus de tomate. Et vous observez, comme vous le voyez ici, trois strates, trois phases. Les pulpes au fond, l'autre constitution de la tomate, je vous ai dit tout à l'heure d'ailleurs par biomimétisme, vous avez 95% d'eau dans une tomate, vous la retrouvez ici. Et puis vous avez les fibres qui flottent. Et là, c'est intéressant parce que pour un chef, vous avez trois textures, trois saveurs, trois couleurs. Et il va pouvoir accorder comme ça ce qu'il a envie. Il y a des acidités dans un coin, il y a des amertumes avec le lycopène, il y a de l'eau très fraîche qui sent vraiment la feuille de tomate dans le jardin. Vous voyez, donc c'est des choses assez intéressantes. Et donc, c'est un très, très bon outil, cette force centrifuge, pour décomposer par la physique ou décolorer même, d'ailleurs, un jus de tomate, mais sans utiliser des additifs à tour de bras, des éléments chimiques de décolorants ou je ne sais pas quoi, enfin bref. Et alors, ben là, par exemple, vous prenez cette autre tomate incolore, vous la mettez dans de la vodka, avec modération évidemment, et vous avez un Bloody Mary incolore. C'est rigolo, mais surtout sans fibres, et vous avez des goûts nouveaux qui apparaissent. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que vous avez ce lien entre structure et propriété organoleptique. Il n'y a pas qu'un effet de couleur ou de visuel. On va le refaire tout à l'heure avec un petit spaghetti de tomate. Et dans le même esprit, ouais, et bien du coup, on a tout passé dans cette moulinette. Et vous avez justement, par exemple, on a créé les tartes, enfin la pâtisserie liquide, parce que vous prenez des pâtes brisées, vous mettez à infuser ça dans de l'eau minérale, vous faites tourner, vous êtes avec la vraie recette. Hein. Mais après, l'idée, c'est que justement, dans ce tube de centrifugeuse, vous pouvez enlever la matière grasse qui flotte, enlever toute la farine, etc., qui était au fond du tube, et récupérer de l'eau de pâte brisée, de l'eau de pâte sablée, de l'eau de pâte feuilletée, et créer comme ça des cocktails en strates à boire. Et là, vous avez une tarte tatin à boire. Et c'est la vraie recette de la tarte tatin, entre guillemets, classique. Mais vous pouvez en plus la simplifier en termes de nutrition, en enlevant la matière grasse, en enlevant l'excès de gluten, etc., etc. Donc voilà comment on innove. Sinon, on a toujours, si vous prenez un cocktail sans alcool, ben vous avez toujours le jus d'orange ou le Paco abricot ou je ne sais pas quoi. Là, et c'est bon, on peut essayer de passer à autre chose aussi. Donc ça, c'est assez intéressant. Et il y a un effet qui est aussi de goût. C'est-à-dire que quand on a fait goûter ça, vous buvez, et pourtant c'était la même tarte solide à côté classique, eh bien il n'y a pas les mêmes goûts, parce qu'il n'y a pas les mêmes sensations, et il y a une compétition entre la texture, et on s'attend à croquer une tarte. Et là, on la boit. Et donc le cerveau, ben, il faut qu'il s'adapte et tout ça. Et alors, vous avez des nouvelles formes qui peuvent apparaître aussi, qui sont assez rigolotes. Et toujours dans cet esprit de compétition sur face volume et de faire goûter à l'aveugle, je vous ai parlé en introduction de la vinaigrette, par exemple. Eh bien, si vous faites dans un verre, on va simplifier, on va prendre dans un verre, vous prenez de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique. Hein? Bon. Vous ne secouez pas beaucoup, vous faites une émulsion qui bouge beaucoup, etc. Donc, vous avez des grosses gouttelettes d'huile. Hein? C'est à peu près mon petit dessin ici, ou ce qu'il vaut. Enfin, vous avez de l'huile et puis du vinaigre. Bon. Vous goûtez. Vous pourrez refaire cette expérience, hein, aussi très facilement. Vous resecouez beaucoup plus, vous mettez cuve ultrason, enfin vous y allez quoi, vous faites une vraie belle émulsion, c'est bien stable. On voit souvent les chefs, vous avez vu à la télé, ils retournent, vous avez vu c'est stable mon blanc en neige là. Ouais, bon ok d'accord, c'est bien. La mayonnaise, pareil, vous avez vu elle est bien béton. Mais est-ce que c'est meilleur quand c'est... Alors ça les rassure d'avoir une belle texture, mais en termes de goût, est-ce qu'on s'y retrouve? Alors vous avez une vinaigrette qui est vraiment bien solide, qui ne retombe pas, et vous goûtez. Eh bien, vous n'avez pas le même goût du tout. Et pourtant, c'était les mêmes ingrédients de départ. Alors, celle-ci a goût de vinaigre, celle-ci a goût d'huile d'olive. Pourquoi ? On n'a pas changé les volumes pourtant, on mange la même quantité, hein, mais on ne mange pas les mêmes surfaces. C'est ça qui est rigolo. Et donc, quand vous avez coupé ces gouttelettes d'huile avec la cuve ultrason, avec votre fouet, etc., eh bien, vous avez énormément augmenté la surface de vos gouttes. Prenez une plaquette de beurre, vous avez un volume, vous coupez, déjà vous créez deux nouveaux rectangles, vous recoupez, vous créez encore de nouveaux rectangles, vous coupez, vous coupez, vous coupez, vous coupez. C'est toujours la même masse, mais ce n'est plus du tout la même surface. Et nous, on mange de la surface. Alors vous dites, il est perché, mais, oui. Mais pourquoi on mange de la surface? Parce qu'on doit tapisser nos récepteurs olfactifs, gustatifs, et c'est qu'une question de chimie et d'interaction. C'est la molécule qui arrive dans le bon récepteur, tac, ça envoie un message, neurone, transmetteur, etc. Et donc, il faut manger un maximum de surface. Et donc, c'est pour ça que là, on mange beaucoup de surface d'huile. Et là, on a plutôt les arômes qui sont extraits du vinaigre qui vont directement remonter dans les fosses nasales. Et donc, tout est comme ça. Donc, ça veut dire que quand vous allez cuisiner chez vous, même pour Noël, vous dites, tiens, je vais mettre un peu d'huile de truffe. Ben, vous avez intérêt de secouer comme des dingues. Ça vous permet de mettre peut-être moins d'huile de truffe, d'ailleurs. Et surtout, donc, d'avoir une texture plus ferme. Si par contre, vous investissez, entre guillemets, dans un vieux vinaigre 20 ans d'âge, donc des choses des fois qui sont exorbitantes, hein, et ben, il vaut mieux avoir ce qu'on appelle un jus tranché, peut-être moins beau, mais beaucoup plus savoureux. Donc voilà des compétitions assez rigolotes. Et on va retrouver ces compétitions surface-volume en astronomie, et c'est ça qui va expliquer la... On va dire la vie, entre guillemets, des planètes.
Enfin, exactement.
Je vais pas dire vie, parce que... Je
exactement, la vie géologique. Mais... La compétition entre surface et volume fonctionne aussi pour les planètes telluriques, hein, pas les planètes géantes, mais les petites planètes, parce que plus vous êtes gros en diamètre, plus votre volume est grand, mais ce n'est pas linéaire. Il y a un R en plus, ça fait, il y a un R cube et un R carré dans l'affaire. Donc quand vous êtes petit, en fait, proportionnellement, vous avez beaucoup plus de surface que quand vous êtes grand. Hein. Il y a une analogie avec les mammifères. Quand vous avez un bébé, il se refroidit beaucoup plus vite qu'un adulte. Pourtant, le mécanisme de production d'énergie est le même. Hein. C'est parce que le bébé, comme il est plus petit, il a beaucoup plus de surface par rapport à son volume. Alors que nous, les adultes, on a moins de surface par rapport à notre volume. Et bien, les planètes ont un mécanisme similaire. La production d'énergie interne est en R cube, c'est-à-dire elle est en volume. Hein. Vous avez les éléments radioactifs qui sont là depuis l'origine du système solaire, qui créent de l'énergie au sein des planètes. Et puis la dissipation d'énergie des planètes se fait juste par leur surface. Et donc les grosses planètes comme la Terre, s'agissant des planètes telluriques, ont tendance proportionnellement à perdre moins d'énergie que les petites qui ont plus de surface par rapport à leur volume. Et ça explique pourquoi géologiquement les petites planètes, ou les petits corps, hein, parce que la Lune n'est pas une planète, mais les petits corps comme la Lune, Mars ou Mercure, se sont éteints beaucoup plus tôt dans l'histoire du système solaire. Il y a eu du magma, il y a eu des volcans, etc. Mais tout ça s'est éteint très très tôt parce que leur dissipation d'énergie était trop importante par rapport à leur volume. Alors que la Terre, eh bien, il continue d'y avoir des tremblements de terre, des volcans, la tectonique des plaques, etc. Et donc ce rapport volume sur surface est une constante de la physique à toutes les échelles, enfin donc ce phénomène. Et donc on voit que la texture et le goût d'une vinaigrette a la même origine physique que la tectonique des plaques sur la Terre. Enfin, on extrapole à peine en disant ça, mais vous voyez bien que l'idée est quasiment la même, c'est la même démarche.
Et justement, pour jouer sur les formes, pour justement changer les goûts et encore innover en cuisine, ben on peut changer les effets de surface-volume et de jouer, alors notamment par exemple avec des gélifiants, mais c'est des petits exemples. Alors là où vous avez du tzatziki par exemple, vous avez un spaghetti comme ça de peau de concombre, une mousse de concombre à l'intérieur, vous avez de la mousse, vous avez des gels, vous avez des textures complètement différentes. Là vous avez une ratatouille en Rubik's Cube, ben là c'est pareil, vous mangez de la surface de
idéal pour les enfants récalcitrants.
Et là on peut même faire des ateliers aussi à Orsay avec la maison d'initiation et de sensibilisation aux sciences. Et ben on peut découper, justement, on mesure des surfaces et on compare comme ça et on goûte. Enfin, en plus, on peut manger, donc c'est assez rigolo, donc c'est ludique. On met la main à la pâte, mais en plus, on apprend des choses, maths et botanique, maths et cuisine, etc. etc. Alors, je vais vous faire juste un peu en direct. On va changer un peu, on va rigoler sur une tomate mozzarella et on va jouer. Alors, on va essayer de faire une spirale dynamique. Alors, l'idée est très facile. Hein. Vous prenez un jus de tomate, vous mettez un peu d'agar-agar dedans. Alors, 0,8% ou 0,8 g dans 100 g, vous faites bouillir. Vous aspirez dans un tube, vous trouvez ça des tubes partout, hein, une seringue à cathéter en pharmacie, par exemple. Pour la ratatouille en Rubik's Cube, il suffisait simplement de prendre dans des plaquettes. Hein, vous n'êtes pas obligé de faire ça dans des tubes. Hein, vous prenez un récipient, un couvercle, vous coulez, ça prend, vous coupez des petits cubes. Hein, vous n'êtes pas obligé non plus de vous embêter à faire des spirales, mais enfin, ça, c'est quand même rigolo. Et alors, une fois que ça prend dans le tube, eh bien, vous avez ce joli petit spaghetti, normalement. Alors, c'est un peu l'esprit, le rouleau de réglisse qu'on a tous connu. Mais voilà comment vous allez faire, par exemple, une tomate mozzarella moléculaire. Alors, attention au terme. Hein. Voilà, on n'est pas obligé de tout manger non plus, on peut s'arrêter là. Mais voilà, ça, c'est simplement une légère gélification. Mais là aussi, hein, parce que vous mangez un gel, parce que vous mangez telle surface, eh bien, vous n'avez pas les mêmes goûts que si vous aviez mangé directement la même tomate. Pourtant, c'est 100% tomate, hein, c'est complètement végétal, ça. Enfin, il y a 0,8% d'agar-agar. Vous pouvez terminer avec une petite boule de mozzarella. J'aurais dû mettre tout au milieu, quand même. Voilà. On aurait pu mettre un petit trait d'huile d'olive, que j'ai oublié. Bon. Un peu de basilic rouge, basilic cresse, ça s'appelle. Pareil, un peu de basilic sauvage, vert. Et puis, vous auriez un petit trait d'huile d'olive qui fait quand même un peu briller tout ça. Enfin, c'est pas grave. Voilà. Vous voyez, c'est quand même pas très compliqué de gagner Top Chef ou de gagner un dîner presque parfait. Et voilà. Vous avez une petite tomate mozza. On aurait pu mettre une petite brunoise de... Alors, dès qu'on cuisine, d'ailleurs, on dit toujours petit, petite sauce, petit truc. Et, alors, moi aussi, je me fais avoir. Bon. Donc, on aurait pu mettre une brunoise de tomate. Voilà, tomate cerise. Vous voyez comment c'est simple, mais ça n'aura pas le même goût que la tomate mozza en tranches, l'une sur l'autre, etc., etc. Vous avez des histoires de surface, volume, de compétition. Et c'est beau. Enfin, moi, ça me plaît. C'est, ça donne déjà envie. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est un petit peu rigolo, c'est très facile à faire, vous avez toutes les recettes, hein, n'hésitez pas aussi, vous pourrez refaire tout ça pour Noël. Là, vous allez épater la galerie, là, Noël. Hein. Voilà, voilà.
Alors, il nous reste 5 minutes.
Oui, très bien.
Mais on va y arriver.
On va y arriver.
Pression et température. Alors là, c'est toi qui commences.
Ah, c'est moi qui commence, oui. Très bien. Alors oui, alors le message est très simple. On est en cuisine, vous connaissez, on cuit à pression atmosphérique. Non, voilà. Et puis, souvent, bah, le réflexe, c'est bah, quand ça boue, mets l'haricot, quand ça boue, mets les tomates, quand ça boue, mets les œufs, quand ça boue, mets la viande. Bon, enfin bref. Sauf que rien ne cuit à 100 degrés. Raté. Seulement, c'est le seul repère qu'on a, l'eau qui boue. Et on travaille aussi à Orsay sur la nouvelle casserole de demain. On a parlé du four de demain. Parce que bah, voilà, les pectines, eh bien, par exemple, même ce jus de tomate, pour extraire un maximum de lycopène, qui est un antioxydant très intéressant, pour cuire des haricots, eh bien, il faut cuire à 82, 85 degrés. Et 100 degrés, c'est trop. Parce que 100 degrés, ça boue, et si ça boue, bah, ça entraîne les arômes. Alors, vous rentrez chez les amis, et puis vous dites « Ah, ça sent bon !» C'est souvent le truc qu'on dit « Ah, ça sent bon chez toi, on va bien manger !» Et moi, je dis toujours à mon ami, je dis « C'est le contraire, je dis, on va encore mal bouffer parce que tout est parti dans la pièce, dans les cheveux, dans le canapé, ou je ne sais pas où, mais qu'est-ce qui me reste dans mon assiette, moi ?» Bah, les molécules qui ne voulaient pas s'évaporer, qui étaient les molécules lourdes. Et on peut parler note de tête, note de cœur, note de fond, exactement comme en parfumerie. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Et il ne faut pas que ça boue, il ne faut pas entraîner les vapeurs, il faut tout garder en cuisine. C'est ça qui est intéressant. On garde, alors après on remet dans le plat ou pas, il y a des choses qui doivent partir d'un point de vue saveur, mais au moins on peut recycler aussi cette eau qui part pour rien. Et la viande, une viande rosée, saignant à point, etc. On n'a pas le petit dessin, mais juste un mot.
Ah oui, non, je t'ai pas
enfin, on avait 5 minutes, mais ouais. J'abuse là. Vous appuyez ici rapidement sous le pouce.
Vous voyez, l'expérience.
Ici, cette expérience très simple. Vous touchez ici, on est du muscle, hein. Désolé pour les véganes s'il y en a, mais voilà, on est de la viande. Vous appuyez ici et vous êtes bleu, d'accord? Alors ça, c'est ce qu'on apprend à l'école hôtelière, hein, 2018. Hein. Vous mettez premier doigt sur le pouce, ça durcit un peu, rosé. D'accord? Vous changez. Alors c'est saignant, pardon. Saignant, rosé, à point, bien cuit. Vous voyez? Alors, donc vous avez le gugus, là, il touche la viande, tac. Oui, vas-y, on voit, c'est saignant. Ça, oui, ça, c'est à bleu. C'est... Ouais, c'est pour ça. Vous voyez, alors que normalement, entre saignant, rosé, à point bien cuit,
bah,
il y a en 2 degrés de différence de cuisson. Est-ce qu'on maîtrise 2 degrés de différence chez soi avec la casserole qu'on a ou le four? Non, déjà, on ne sait même pas ce qui est vraiment la température, etc. Donc, réfléchissons à des températures différentes. Et on peut aller plus loin, c'est-à-dire qu'on peut se déplacer dans le diagramme de phase, il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire que nous, à pression atmosphérique, l'eau boue à 100 degrés. Si vous utilisez une cocotte minute, vous augmentez la pression, donc vous augmentez la température d'ébullition. Ça veut dire que vos haricots, ils cuisent plus vite. Alors, on évite de mettre des haricots en autocuiseur, mais les lentilles, etc., tous les trucs qui étaient un peu longs à cuire, ils cuisent plus vite parce qu'ils cuisent à plus haute température. Et au contraire, on peut réfléchir dans le four que je vous ai présenté tout à l'heure sous vide, eh bien, l'eau va bouillir à 50 degrés, 40 degrés. Donc, vous allez garder les nutriments, vous gardez les vitamines, ça va cuire plus longtemps, mais vous allez avoir des nouvelles textures. Donc, on explore ce qu'on appelle le diagramme température-pression, parce que c'est encore un monde complètement vierge, la pression. Personne ne cuit à basse pression actuellement. On ne cuit qu'à pression atmosphérique. Donc c'est rigolo d'aller explorer tout ça, mais c'est rigolo surtout d'un point de vue santé, et là c'est moins drôle, c'est-à-dire qu'il y a des vrais avantages nutritionnels et des nouvelles textures plus justes. C'est cuit, mais ce n'est pas caoutchouteux. Vous voyez, ce n'est pas la semelle, mais l'œuf est translucide, mais il est cuit quand même. Donc on va des nouvelles émotions, parce que c'est ça quand même, c'est la science pour de nouvelles émotions. Voilà un petit peu le message de... très rapide de conclusion, température, pression.
Et alors, les galaxies et les amas de galaxies ont à peu près la même vie. Hein, ouais. C'est le même, ouais. Presque le même diagramme. Alors, ce n'est pas pression, température.
Pas la même échelle plutôt, non plus.
C'est, voilà, il y a des ordres de grandeur. C'est densité de la matière, pour faire simple. Et puis, température de la matière, on est quand même à 1 million de degrés. Là, mais,
oui, on n'est pas...
Mais une ligne de démarcation très claire. Si votre gaz est suffisamment froid et dense... Et vous arrivez à former des galaxies, parce que le gaz arrive à se refroidir, et puis vous pouvez former des étoiles, et donc au sein d'une galaxie. Mais si votre gaz ici est trop chaud par rapport à la densité, eh ben, votre matière qui aurait pu former une galaxie, en fait, elle tourne trop vite, elle ne peut pas se condenser, donc ça reste dans un milieu très très chaud, très très diffus, et donc ça reste un amas de galaxies. Donc pareil, on pourrait y passer des heures, hein, mais vous voyez que ce genre de diagramme et ce genre d'analyse permettent de caractériser physiquement les objets qu'on voit dans l'univers. Et puis quand même un petit mot sur la densité. La densité moyenne de l'univers est très 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 faible. La densité moyenne de l'univers, si je prends 1 cm, alors je sais plus si c'est 1 cm cube ou 1 mètre cube, j'ai un peu oublié là.
1 mètre cube.
C'est 1 mètre cube, merci, heureusement il y en a un qui suit. Donc si vous prenez 1 mètre cube de l'univers, c'est à peu près 6 protons par mètre cube. Donc vous prenez 1 mètre cube, vous mettez que 6 protons. Sachant qu'ici, dans cette pièce, dans 1 mètre cube, il y a 10 puissance beaucoup de molécules. Beaucoup étant de l'ordre de 25 à peu près, hein, je pense. Hein, aux conditions de température et de pression là, même 26 d'ailleurs, nombre d'Avogadro, même un peu plus. Donc 10 puissance 26. Donc vous voyez là, il n'y a que 6 protons par mètre cube selon comment on compte la densité de l'univers. Donc on va terminer. On parle un tout petit peu de cryogénisation. Un mot.
Alors, et puis on pourrait faire des manips normalement avec l'azote liquide pour aussi faire encore des belles choses et puis parler justement des très très basses températures. Ça, c'est encore tout un autre monde. Mais voilà, l'azote liquide, c'est un moyen de refroidir très rapidement. Donc là, on est à moins 196 degrés. En cuisine, c'est énorme. Pour un astrophysicien, c'est très petit joueur. Mais la température est à 3K, c'est ça?
La température de l'univers est à moins 270 degrés. Donc
voilà. On arrive à surgeler directement l'eau, par exemple, encore d'une petite tomate. Et après, on fait le vide. Et par exemple, on fait des lyophilisations, des cryoconcentrations. On parlait tout à l'heure dans la pièce, quand on fait bouillir, ça s'évapore. Quand vous faites bouillir du vin, l'alcool boue à 78 degrés. Et après, c'est l'eau qui boue à 100 degrés. Mais on peut séparer aussi l'alcool et puis l'eau, ou alors séparer la vitamine C de l'eau pure, etc., certains nutriments, par le froid. Et là, c'est plus intéressant parce qu'on ne détruit rien. Donc voilà aussi des nouvelles choses qui arrivent en cuisine. Concentrer les saveurs par le froid. C'est-à-dire réduire la sauce au tiers, d'accord, mais il n'y a plus de tiers dans la pièce. J'ai bien tous mes arômes dans mon tiers qui reste. Et là, en termes de saveur, c'est encore exceptionnel. Donc, il y a encore plein de belles choses à faire sur le froid. Mais il faudra revenir avec de l'azote cette fois.
Voilà. Ce qu'on n'a pas pu faire aujourd'hui dans le RER. Ouais,
c'était compliqué dans le RER, surtout avec ces temps de
trimballer l'azote, c'était voilà. Moyen.
Quoi finir au poste.
Et puis, la température, comme l'évoquait Raphaël, on a fabriqué il y a quelques années à Orsay principalement, mais aussi avec le concours de cet institut ici à Paris, un instrument extraordinaire qui est représenté ici à droite, qui est à peu près gros comme ça. Vous pouvez venir le voir à Orsay, on a le modèle de qualification, qui s'appelle Planck, et qui était refroidi à 0,1 degré au-dessus du zéro absolu, moins 273 degrés Celsius. Prouesse unique au monde, jamais renouvelée depuis. On a envoyé ça dans l'espace pendant 2 ans, et ça a permis d'obtenir cette image extraordinaire à gauche, qui est la première lueur de l'univers, que je vous avais montré tout au début, je ne vous ai pas exactement dit ce que c'était. C'est ce qu'on appelle le fond cosmologique, qui est cette première lueur qui est libérée 370 millions après le Big Bang. Et la température à peu près moyenne de notre univers, donc à cette époque-là, 2,726 Kelvin, donc 3 Kelvin, on arrondit, hein, donc moins 273 degrés. Il a fallu utiliser une instrumentation spatiale dernier cri, ultra froide pour permettre de mesurer ce rayonnement très froid de l'univers, parce que si vous êtes trop chaud, en quelque sorte, vous êtes ébloui. Un peu comme si j'essaie de regarder le ciel étoilé derrière ces projecteurs, j'y arriverai pas. Et lumière et chaleur, c'est à peu près la même chose. Donc il faut un instrument ultra froid pour pouvoir observer ce rayonnement cosmologique. Et donc on utilise également le froid. Voilà, ceci conclut notre petite conférence. Merci de votre attention et nous prenons vos questions. Ouais, ça marche.
Merci beaucoup. Voilà, pour tous ceux qui, comme moi, ne sont pas des grands cuisiniers, ça va vous donner des idées pour les réveillons à venir. Est-ce qu'il y a quelques questions?
Oui, monsieur, on n'est pas étonné maintenant d'entendre parler plus de laboratoire que de cuisine. Et question, est-ce que selon vous, est-ce que les grands chefs qui en ont peut-être les moyens, ont dans leur équipe constamment un chimiste pour naturellement explorer la manière la plus originale
des
composantes de la gastronomie. Ouais,
alors, effectivement, tous les grands chefs n'ont pas un chimiste comme ça sous la main. Mais par contre, c'est quand même dans l'esprit des cuisiniers d'avoir toujours voulu comprendre ce qui se passait. Vous regardez Escoffier, 1907. Donc vous voyez, ce n'est pas des choses récentes. La cuisine sans cesser d'être un art deviendra scientifique. Auguste Escoffier a écrit ça dans la préface du guide culinaire français. Et donc il avait compris justement que les cuisiniers travaillaient par essai-erreur, alors c'est de l'empirisme, mais par l'expérience, ils apprennent de leurs gestes. Voilà. Et c'est intéressant, et c'est pour ça que cette chaire universitaire, elle existe à Orsay, et c'est complètement unique de créer ce lien, ces passerelles entre l'artisanat et l'université. Et donc les entreprises aussi, l'artisanat, qui confrontent, et c'est hyper enrichissant pour les deux mondes, et aussi pour nos étudiants, évidemment, parce qu'ils voient une utilité à ce qu'ils apprennent, une application tout de suite. Donc, et alors, on parle de laboratoire de pâtisserie depuis, pareil, des vingtaines d'années, laboratoire en charcuterie, etc., etc. Donc, c'est un lieu d'expérimentation, sauf que quand on est dans la salle, quand on est assis dans son assiette, il faut que l'expérience soit réussie. Alors qu'un laboratoire, on est là pour avoir des essais, des erreurs, et au contraire, quand l'expérience est ratée, c'est là qu'on apprend le plus. Si c'est réussi, on s'ennuie, on passe à autre chose. Et on apprend de ses erreurs. Et c'est pour ça que là encore, c'est ce qu'on dit avec Thierry Marx, les cuisiniers ont des cahiers de recettes, il faudrait qu'ils aient des cahiers de labo, exactement comme nous on a. C'est-à-dire, là j'ai raté, et on s'interdit d'avoir du Tipex ou du truc comme ça. Et c'est aberrant pour un scientifique d'avoir du Tipex, c'est un non-sens. Et donc on barre, et on dit, tiens, t'as vu, j'ai raté ce truc-là, c'est génial, quoi, presque. Et on se dit, ah oui, mais comment ça se fait? Et là on apprend. Et c'est exactement cette démarche-là qu'il faut enseigner en cuisine, et c'est ce qu'on défend aussi avec Thierry, et même dans sa brigade quand j'y vais, c'est-à-dire on leur dit, mais montre, c'est raté, mais c'est pas grave, on va apprendre de ses erreurs et de pourquoi ça a raté, voilà. Donc c'est un état d'esprit en fait, mais c'est vraiment ancré dans le cœur des cuisiniers, mais depuis Escoffier au moins.
Une autre question ?
J'en étais à la répartition de matière dans une galaxie. Et il me semblait avoir de mes souvenirs que la masse du trou noir galactique était beaucoup plus faible que ce que vous avez dit. C'est 0,5 centième.
Il me semble que pour le trou noir, sauf erreur de ma part, je n'ai pas dû annoncer de chiffres, mais en tout cas, la masse d'un trou noir est une toute petite fraction de la masse d'une galaxie.
Mais alors, pourtant, vous avez donné un chiffre beaucoup plus élevé tout à l'heure.
J'ai parlé de la matière noire.
Non, je ne parle pas de matière noire, je parle du trou noir.
Le trou noir, il ne me semble pas avoir donné de chiffre, parce que justement, la masse des trous noirs varie entre quelques masses solaires jusqu'à 10.
La dernière ligne, c'était trou noir.
Oui, mais ça, c'était les votes.
Hein?
Ah oui,
c'était les votes des participants. C'était pas.
C'est pas la réponse. Quoi.
C'était un sondage, en fait. Voilà. Voilà. Mais la masse des trous noirs est effectivement négligeable dans la masse d'une galaxie.
Je tilte sur les 6 protons par mètre cube.
Oui.
Bon, c'est le vide. Mais de quoi est fait ce vide, d'une part, et comment ça se fait que ces 6 protons arrivent à s'agglutiner alors que, bon, on se demande, est-ce qu'il n'y a pas autre chose quoi ? Enfin, c'est mystérieux, cette affaire.
Alors, nous sommes d'accord que l'univers est assez mystérieux, mais pas forcément sur ce point. L'univers est très, 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 très grand. Donc ici, nous sommes dans une petite surdensité. À l'échelle cosmique, nous sommes rien. Vous avez vu l'image de la galaxie tout à l'heure. Je ne sais pas si je l'ai encore. Mais, j'ai fait le calcul avec mes collègues. Alors, je n'ai plus le pointeur. Mais si on représentait le système solaire sur cet écran, donc à la même échelle que la galaxie, la taille du système solaire serait celle d'un atome sur cet écran. L'univers est éminemment vaste par rapport à nos échelles humaines. Donc, ici, on est sur Terre, on est dans un environnement ultra dense par rapport à la densité moyenne de l'univers, mais ce sont des zones ultra petites, un peu comme des bulles de vinaigre dans une mer d'huile.
Et encore,
les ordres de grandeur n'y sont pas. Ouais. Donc ici, on est dans un environnement extrêmement complexe et ultra dense, mais on n'est rien en termes de volume. Le volume du système solaire, enfin même de la Terre, hein, vous savez que le système solaire est très vide. Hein. Parfois, je vais dans les écoles, on trace le système solaire dans la cour avec les échelles des orbites des planétaires, mais le système solaire est vide. La distance entre les planètes est impressionnant grand par rapport à la taille des planètes. Donc en fait, l'univers est complètement vide. Donc quand on se met à très grande échelle, la densité de la Terre et du Soleil, c'est rien du tout. Et donc si rien que sur cette image, hein, imaginons que ça fasse que la moitié. Vous voyez que la galaxie prend, un tiers de la surface de l'image. Vous faites ça en volume. La densité moyenne d'une galaxie, c'est pas grand-chose. Hein, c'est 1000 particules par centimètre cube, un truc comme ça, c'est rien. Hein. Le gaz interstellaire, c'est rien. Vous faites le calcul, pof, la densité d'une galaxie, c'est rien. Donc en fait, ce sont des effets d'échelle. La réponse courte, hein, ce sont des effets d'échelle. Nous, évidemment, on est dans un univers très très dense, enfin dans une zone de l'univers ultra dense. Hein. Dans un mètre cube, il y a 10 puissance 23. Hein. 6 23 10 23, c'est pas 10 26. Ouais. Donc il y a 10 23 particules là ici, mais dans le reste de l'univers, il y a juste rien. Donc votre question sur le vide, bah, le vide, c'est vraiment rien. Alors il y a du rayonnement qui passe, il y a des neutrinos, etc. Mais globalement, il y a rien. Le vide, c'est rien.
C'est rien.
Alors, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais en tout cas, les échelles dans l'univers font que ce n'est absolument pas contradictoire d'avoir une densité très très faible, globale. Hein. Là, je parle d'échelle de mégaparsecs, hein, de millions d'années-lumière, et d'avoir ici un environnement très très dense et très chaud.
Une dernière question ? La dernière question de l'année ? Non ?
Elle vaut cher.
Non, on est en train de le faire.
Ah, Orsay, ça existe.
Ouais. Eh oui, on est les premiers.
Eh bien, bonne fête à tous et à l'année prochaine. Merci beaucoup.